France Info.
Bonsoir, la porte de Matignon sera toujours ouverte, déclare Édouard Philippe, mais gare au courant d'air. Le rendez-vous avec les gilets jaunes a fait chou blanc. Les regards se tournent désormais vers les Champs-Élysées demain et le gouvernement cherche une autre porte, celle de la sortie de crise. L'idée d'un moratoire pour les hausses des prix des carburants commence à cheminer timidement. Nous faisons le point ce soir à la une des informés. L'ambiance n'est guère plus joyeuse à Buenos Aires. Le sommet du G20 démarre avec une bonne soupe à la grimace. Les 20 plus grandes puissances n'ont toujours pas rendu ce monde plus prospère. En finir avec la pandémie du sida, mais aussi celle de la tuberculose et du paludisme, c'est une question de moyens, affirment 10 ONG qui lancent un appel sur les sites de France Info et du Huffington Post. On en parle avec nos invités ce soir. Bonsoir à vous, Virginie Le Petit.
Bonsoir.
Chef d'édition à Courrier International. Invité également, bienvenue à vous, Virginie Pradel. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fiscaliste, ça va compter ce soir, à l'Institut Vauban. Avec nous, autre partenaire désinformé, Hervé Nathan. Bonsoir Hervé.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver également, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et avec nous, Erwan Benezé. Bonsoir à vous Erwan.
Bonsoir.
Journaliste au Parisien aujourd'hui en France, vous êtes en charge de l'énergie et de l'automobile, ça compte. Auteur au passage de Nucléaire, une catastrophe française. Formidable ouvrage que je recommande chez Fayard. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT. C'est une histoire de porte. Un premier gilet jaune est venu. Il s'appelle Jason Herbert, mais ça n'a pas marché.
Je les ai informés ne pas souhaiter poursuivre la discussion, parce que il n'était pas possible de filmer l'entretien. Le Premier ministre m'a fait part d'une chose qui est que, selon lui, le dialogue est ouvert et qu'il se tient à la disposition de l'ensemble des Français la semaine prochaine pour poursuivre ce dialogue.
Puis est venu un deuxième gilet jaune qui est resté cette fois avant de partir par une porte dérobée. Son identité n'a pas été révélée. Édouard Philippe, sur le perron de Matignon, aux côtés du ministre de l'écologie, François de Rugy.
Nous avons pu, avec le ministre d'État, dialoguer pendant plus d'une heure avec l'un de ses représentants. Ce débat a été intéressant, il a été franc, il a été respectueux, il a été utile puisqu'il a nourri notre réflexion. Je tiens à dire que la porte de Matignon restera toujours ouverte si les gilets jaunes souhaitent désigner des représentants.
Virginie Le Petit, porte ouverte, mais vraisemblablement ce n'est pas à Matignon que ça se joue aujourd'hui.
Non, c'est pas à Matignon que ça se joue aujourd'hui. Et puis, on ne sait pas en fait si les représentants donc anonymes des Gilets jaunes, qui ils représentent réellement, quels sont. On ne sait finalement rien, à part qu'une rencontre a eu lieu. Donc non, c'est pas à Matignon que ça se joue, mais ça peut contribuer éventuellement à apaiser avant un week-end qui peut à nouveau être ouais. Compliqué.
Hervé Nathan, ce dialogue, c'est trop tôt, c'est trop tard?
Bah, de toute façon, le Premier ministre, Édouard Philippe, avait commencé par dire qu'il n'y a personne avec qui discuter. Ensuite, la CFDT avait proposé d'organiser un dialogue, lui a dit qu'il ne représentait rien du tout. Faut pas qu'il s'étonne trop de se retrouver dans une situation où il est devenu un peu ridicule, parce que celui qui est ridicule, c'est pas le jeune homme qu'on a vu là, qui, même s'il est un peu hésitant dans l'expression, celui dont la dignité institutionnelle est beaucoup amoindrie, c'est le Premier ministre qui se retrouve obligé, enfin contraint, de refuser de parler devant une caméra d'un côté et de recevoir en catimini quelqu'un dont on ne sait pas qui c'est, et qui, etc. Je ne reprends pas ce qui a été dit. Donc, on est dans une situation où le pouvoir est en train de s'effondrer du point de vue symbolique. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à Matignon, ce n'est plus un lieu de pouvoir, ce n'est plus le lieu du Premier ministre, ce n'est pas l'endroit où il y a un dialogue. Et il vient de dire, je suis prêt à écouter, enfin, si j'ai bien compris, il s'engage à écouter tous les Français. Il va y avoir la queue à Matignon, là, dans la rue, ça va faire des files entières, parce que s'ils vont écouter tout le monde.
Si chacun vient, voilà, ça fera du monde, c'est ça.
Ça va faire du monde.
Virginie
Prade, ça lui fera un emploi.
Virginie Prade, alors, signaler le Conseil économique, social et environnemental qui s'est auto-saisi pour apporter une réponse globale. Toutes les tentatives sont bonnes à prendre toutefois, Virginie?
Oui, bon là, ça tourne un peu au vaudeville, les allers-retours à Matignon. D'autant plus que c'est un faux dialogue parce que le gouvernement a clairement indiqué qu'il n'était pas prêt à faire un moratoire. Donc ces allées et venues sont pour l'instant inutiles.
Vous pensez que la porte est fermée en réalité,
je trouve que ça fait une mise en scène. Enfin, pour ouvrir vraiment le dialogue, il faudrait que le gouvernement ouvre une porte justement en disant qu'il est prêt à opérer un moratoire sur les hausses conséquentes de la taxe carbone et donc de la TICPE.
Oui, le fameux moratoire. Erwan Beneze, comment est-ce qu'on en est arrivé là selon vous ?
Déjà, il y a un souci sur la forme. À mon avis, les communicants autour des ministres et du gouvernement doivent s'arracher les cheveux parce que, vous savez, quand on est journaliste et notamment en presse écrite, quand on fait un témoignage, on essaye absolument de demander à la personne on fait une photo pour qu'il y ait plus de. Là, vous avez un témoin.
Vous avez souvent des personnes qui s'expriment. Hein, vous avez un panel dans le Parisien à chaque jour avec des photos.
On l'a fait hier d'ailleurs. François de Rugy est venu face aux Gilets jaunes. Mais on sait que quand on fait un témoignage, c'est toujours bien plus fort quand il y a une photo avec le nom de la personne, etc. Et là, vous avez donc non seulement le premier gilet jaune qui s'en va, puis vous avez le deuxième gilet jaune qui est un gilet jaune anonyme. Et donc, la forme est représentative du fond, c'est-à-dire que il n'y a pas de structure. C'est-à-dire que même là, la communication est un peu ratée, un peu bancale.
Vous voulez dire que c'est une communication qui est presque contre-productive, parce qu'au fond, ça ne se joue pas là, finalement.
D'abord, elle ne fonctionne pas. Je pense que même dès le début de la semaine, toute la séquence de cette semaine avec la présentation de la PPE a fait finalement
la PPE qui est
la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc c'est un peu le grand plan de vol de la stratégie en énergie du pays pour la prochaine décennie. Et en fait, on sent qu'il n'y a pas de prise.
Oui, Virginie Lepetit, finalement, vaudrait presque mieux ne... Enfin, c'est très compliqué pour le Premier ministre, ne pas recevoir, ce serait une porte fermée, il ouvrait la porte avec personne, l'image est quand même déplorable.
Ne pas recevoir, ça serait un véritable camouflet, ça serait sans doute plus franc et plus honnête, mais en même temps, ça renverrait immédiatement un message qui ne ferait que mettre de l'huile sur le feu. Donc oui, ils sont coincés. De toute façon, ils sont coincés depuis le début. Ce mouvement, ils n'ont pas de réel interlocuteur pour pouvoir dialoguer avec lui. Ils sont coincés.
Allez, 20h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Sur Twitter, l'UNEL, syndicat lycéen, donne rendez-vous ce lundi pour une nouvelle journée de mobilisation contre les réformes du bac et d'accès à l'université. Aujourd'hui, selon l'UNEL, 40 000 jeunes se sont mobilisés dans le pays et ont bloqué des lycées. Des actions ont eu lieu, entre autres, à Poitiers, Tours, Orléans et Rennes. L'UNEL insiste sur la différence entre cette mobilisation et celle des Gilets jaunes. Des Gilets jaunes dont un seul représentant a aujourd'hui rencontré à Matignon Édouard Philippe, ainsi que le ministre de la Transition écologique. Son identité n'a pas été révélée. Le Premier ministre a parlé d'un échange respectueux utile, essentiellement porté sur le pouvoir d'achat. Montré du doigt fin 2017 dans la contamination de lait pour bébé dans son usine de Cran en Mayenne, Lactalis, tout comme la Direction Générale de la Santé, démente la présence de salmonelle dans des produits issus de la tour numéro 2 de l'usine. Jusqu'à présent, seule la tour numéro 1 avait été mise en cause dans cette affaire. Les autorités américaines déclenchent une alerte au tsunami après un tremblement de terre de magnitude 7 ce matin dans le sud de l'Alaska. Dans la capitale Anchorage, des bâtiments ont été secoués sans faire apparemment de victimes. En match avancé de la 15e journée de Ligue 1 de football, Saint-Etienne reçoit Nantes. Ce soir, le coup d'envoi, c'est à partir de 20h45.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors, nous l'avions évoqué dans les informés hier soir, François Hollande, qui est allé à la rencontre des Gilets jaunes lors d'une visite privée en Ardèche, à Entraigues-sur-Volanne. Continuer à prendre la parole pour que cela débouche, leur a dit l'ancien président, ce qui n'a pas échappé à son successeur Emmanuel Macron, qui lui a répondu devant la communauté française à son arrivée à Buenos Aires en Argentine. Dialogue de président à distance.
J'assume ce que j'ai fait, je me défausse sur personne. Ce que j'ai fait durant tout le quinquennat, je le prends sous ma responsabilité. Après, il y a Macron, il a fait un autre choix, il s'est présenté avant que je ne me décide, vous avez quand même suivi ces événements. Bon, ensuite, il a fait son choix, il fait ses orientations. Après, il doit en répondre devant le pays.
Les voix qui, parfois, n'avaient pas même réussi à bouger les choses et qui sont sans doute plus à la racine de cette situation que nous vivons que le gouvernement qui n'est aux affaires que depuis 18 mois. Que voulez-vous ? Le cynisme fait partie de la vie politique.
Le cynisme. Hervé et Nathan, je vous vois rire. Je sais pas si on a envie d'ailleurs de se marrer avec cette histoire. C'est deux présidents qui règlent leur compte alors que on est dans le dur d'un conflit national.
Non, on est dans le dur d'un conflit national. Je reviendrai là-dessus. Mais pourquoi il y a de quoi sourire? Parce qu'une certaine manière, il y a une espèce de drame intime du président de la République actuelle et du précédent. Parce qu'une certaine manière, elles sont extrêmement liées. L'un était le conseiller de l'autre. Donc, c'est difficile de séparer les actions au fond. Il y a une grande continuité, en fait, dans les politiques publiques menées par les deux, même s'il y a des différences. Et d'une certaine manière, il y a on accuse de cynisme, d'une certaine manière, c'est un renversement de perspective, parce que on peut aussi dire qu'Emmanuel Macron a été d'un grand cynisme dans la manière dont il a quitté le gouvernement, puis mené sa campagne, et contraint le président de la République précédent à ne pas se présenter. Donc il y a toujours ce règlement de compte qui vire. D'ailleurs, ça fait des mois que ça dure maintenant, et ça vire. Là, pour le coup, je trouve que ça vire un peu au petit vaudeville. C'est pas toi, c'est moi, c'est pas lui, c'est l'autre, etc. Alors qu'effectivement, ce qui est dramatique dans cette séquence-là, c'est autre chose. C'est que Emmanuel Macron s'est présenté en disant « Moi, je ne reculerai pas comme Hollande l'avait fait, par exemple, face au bonnet rouge. »
Un peu le cas, non, quand même.
Pour le moment, il l'a pas fait.
Non.
Pour le moment, il l'a pas fait. Et justement, tout son quinquennat joue sur le fait qui ne reculera pas. Et c'est pour ça que, par exemple, le moratoire est une question aussi enquistée à l'intérieur du personnel politique français. Il commence à y avoir des gens dans la majorité, Madame Bourguignon, et puis un autre dont le nom m'échappe immédiatement, qui ont demandé le moratoire, des députés qui disent maintenant il faut faire le moratoire parce que on tient plus face à l'opinion. C'est des gens qui sont quand même, ils voient leur mandant, les gens qui les ont élus, ils voient que c'est en train de craquer et ils sentent que en plus que le pouvoir est en train de s'effilocher face à un mouvement aussi compliqué que celui-là, et ils disent moratoire. Mais s'il y a moratoire, pour le coup, d'abord, personne ne croit qu'un jour on pourrait reprendre la taxe qu'on aurait levée pendant 3 mois. Et bien, d'une certaine manière, la promesse qu'il avait faite, son engagement tomberait.
Alors,
et il deviendrait le Hollande de...
Le Hollande revisité, nouvelle version. Virginie Lepetit, alors il avait le droit de s'exprimer à l'étranger, puisque c'est toujours la fenêtre de tir qu'offrent ses rencontres avec les Français. C'est une sorte d'extraterritorialité. Vous êtes surprise par ce duel à distance?
Non, parce que effectivement, il dure déjà depuis plusieurs mois. Après, il est entaché d'amertume beaucoup, et l'amertume, c'est pas très vendeur. Hein. C'est quand même pas un sentiment qui donne envie de suivre les gens. Voilà. Donc, je trouve que c'est assez décevant en fait tout ça, et que ça devrait se situer bien au-delà de ses postures à l'un et à l'autre.
Oui, Virginie Pradel, d'abord, c'est l'éternelle question du qui est responsable. Est-ce que c'est le président d'avant avec son héritage ou son successeur qui a parlé hier de décisions supplémentaires qui ne seront jamais des reculs. Il ne veut pas reculer, en fait.
Oui, moi, ce que je trouve exceptionnel avec François Hollande, c'est que c'est quand même lui qui a instauré la taxe carbone et c'est lui qui est directement responsable aujourd'hui de la révolte des Gilets jaunes. Parce qu'il a instauré la taxe carbone, ce qui implique la hausse de la
fiscalité, François Hollande.
Ah oui, bah, qui a augmenté d'ailleurs les prélèvements obligatoires de 135 milliards d'euros pendant son quinquennat, ce qui est quand même à l'origine de la révolte. Donc voir François Hollande aller soutenir les Gilets jaunes, c'est quand même, là on atteint vraiment le paroxysme du cynisme.
Oui, Erwan Beneze, la fermeté est-elle la bonne réponse au fond dans ce conflit? Fermeté.
Alors, on parlait de vaudeville tout à l'heure, là, sur l'aspect Hollande et Macron.
Échange à distance, oui.
Dans la tragédie grecque, enfin, il y a depuis longtemps la volonté de tuer le père. Et donc là, il y a le père qui rue un peu dans les brancards. Mais il faut faire attention, effectivement, on parle de fermeté. Il faut faire attention, il y a un risque que ça se retrouve à une dispute familiale, voire une dispute de cours d'école, alors que là, le risque à l'extérieur, d'embrasement en France, est réel.
Oui, parce qu'Hervé Nathan, François Bayrou a dit chez nos amis d'Europe 1 ce matin, je le cite, « À un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple et il ne faut pas ajouter des charges aux charges ».
Oui.
Ça signifie qu'il faut peut-être à un moment donné briser un peu la glace et parler aux gens.
Mais non, le problème, c'est on a l'impression que excusez-moi, l'expression ne va pas. Pourquoi? Parce que les gens, ils en ont assez qu'on leur parle et qu'on agisse et qu'on leur présente pas de mesures. Ce qui se passe, le mouvement n'arrête pas de le dire. Il dit, mais vous nous prenez pour des imbéciles à nous dire qu'on nous a pas expliqué. Ils ont très bien compris. Je veux dire, les Français, y compris et d'abord ceux qui sont mobilisés autour des carrefours, ils ont très bien compris, ils savent compter, ils savent faire ils ont leur budget à la fin du mois. Quand ils disent, on n'en peut plus, c'est qu'ils en peuvent plus. Donc c'est pas la peine d'aller leur expliquer. Mais vous avez pas compris, en fait, refaites vos additions. C'est, d'une certaine manière, c'est ça l'attitude actuellement, non seulement d'une bonne partie, non seulement du pouvoir des politiques, enfin des gouvernants actuels, mais aussi des médias. Il y a de quoi être effectivement un peu interloqué. Vous prenez franchement 20%. Il y a 85% des Français qui disent il faut faire quelque chose, et il y a encore une partie du personnel politico-médiatique qui dit non, on va vous expliquer. Il y a un moment où...
alors justement, le mouvement attend des réponses concrètes. Vous le disiez à l'instant, Hervé Nathan, les syndicats reçus ce matin à Matignon ont avancé des pistes qui vont de la prime transport, la hausse de salaire, voire ce fameux moratoire sur la taxe carburant. Virginie Lepetit, ceux qui se mobilisent veulent du concret. Or, 3 mois de discussion, vous savez, c'est la proposition, une des propositions du chef de l'État de mardi dernier, eh bien, elles vont au-delà du 1er janvier, date de la hausse des prix du carburant. Est-ce qu'on est dans le flou? Est-ce qu'on est dans une espèce de dialogue de sourds et de système qui patine, qui tourne dans le vide?
Les délais qui sont ceux des
gilets jaunes. C'est court, mais ça enjambe la fameuse date fatidique finalement.
Oui, mais alors le problème, c'est que sur la fiscalité, comme et surtout et encore plus dans tout ce qui est énergie, 3 mois, c'est extrêmement court. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes délais et on n'est pas dans les mêmes enjeux pour les uns et pour les autres. Donc, effectivement, le dialogue, partant de là, je vois pas comment il pourrait s'amorcer, vu qu'on a des gens qui parlent de boucler leur fin de mois et qu'on a un gouvernement qui, lui, parle de fiscalité sur du très long terme et d'investissement sur du très long terme. On n'est pas dans le même registre. Donc, voilà, je vois pas comment ça peut s'amorcer.
Virginie Pradel, très concrètement, techniquement, dans la discussion budgétaire, est-ce qu'on peut changer la règle là, maintenant, aujourd'hui, en ce qui concerne les taxes des carburants qui doivent augmenter au 1er janvier?
Bah, tout est possible, un moratoire est toujours possible. Et puis bon, on est déjà à 48% de prélèvement obligatoire, donc ça fera un petit peu moins de recettes fiscales, ça fera un petit peu plus de déficit malheureusement, mais j'ai l'impression que Emmanuel Macron et le gouvernement ne prennent pas la mesure de la révolte populaire qui est en train de naître. Et moi, ça me fait énormément penser à la poll tax, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est dans les années 1990, et ça a quand même amené Margaret Thatcher à quitter le gouvernement. On avait des centaines de milliers de contribuables, pareil, de la classe populaire qui avait été directement frappée par un impôt qui était jugé inégalitaire. Et je pense qu'aujourd'hui, si le gouvernement ne réagit pas en faisant un moratoire très rapidement, il y a quand même une escalade de la violence. Alors moi, j'ai fait les deux manifestations, il y a une escalade très violente. Moi, j'ai très peur de ce qui va se passer samedi.
Allez, nous évoquerons justement ces problèmes de manifestation sur les Champs-Élysées demain et nous reviendrons effectivement dans le détail sur la question du moratoire dans la deuxième partie des Informés de France Info. Mais tout d'abord, le rappel de l'info à 20h20 avec vous, Thomas Bénèche.
À la veille de l'acte 3 de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris, entre autres, les députés communistes et de la France insoumise annoncent aujourd'hui vouloir déposer une motion de censure contre le gouvernement. Un moyen pour eux de dénoncer, disent-ils, la gestion catastrophique de ce conflit. Pour que la démarche aboutisse, les élus doivent réunir 58 signatures. Deux hommes et une femme soupçonnés de séquestration, torture et viol sur une jeune femme de 18 ans à Calais ont été mis en examen. Les trois individus ont été arrêtés mercredi et reconnaissent les faits, indiqués aujourd'hui le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Le tribunal de Tokyo décide lui aujourd'hui de prolonger de 10 jours la garde à vue du PDG de Renault, Carlos Ghosn. D'ici là, les procureurs vont devoir décider s'ils inculpent ou relâchent le grand patron arrêté il y a une dizaine de jours maintenant au Japon. Il est soupçonné d'avoir dissimulé une partie de ses revenus dans les comptes du constructeur Nissan. Peu avant l'ouverture cet après-midi du sommet du G20 à Buenos Aires, le président russe Vladimir Poutine a mis la pression sur les États-Unis en déclarant regretter en ce moment la pratique vicieuse d'un protectionnisme commercial. Moscou est frappé depuis 4 ans par des sanctions américaines liées aux tensions avec l'Ukraine et à l'annexion de la Crimée. L'équipe de France masculine de basket qualifiée pour les championnats du monde 2019 en Chine. Les Bleus ont battu ce soir la République tchèque 79-65.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ce n'est décidément pas la joie. Le sommet du G20 à Buenos Aires a débuté avec 2 petites heures de retard sur fond de profonde division. Nous sommes loin de la promesse de multilatéralisme de la première édition il y a quelques temps déjà. Le groupe des 20 avait promis bien la prospérité au monde entier. C'était il y a quasiment 20 ans. Caramba, c'est raté. Le sommet va vivre au gré des humeurs de Monsieur Donald Trump et la mauvaise mine aussi de Vladimir Poutine qui a dénoncé la pratique vicieuse du protectionnisme commercial, le président russe.
On ne peut pas ne pas voir qu'une concurrence malhonnête remplace de plus en plus souvent un dialogue honnête basé sur le principe d'égalité entre États, une pratique vicieuse du recours aux sanctions unilatérales illégales et aux mesures protectionnistes se répand en contournant la charte de l'ONU, les règles de l'OMC et les normes du droit mondialement reconnu.
Virginie Le Petit, Vladimir Poutine qui évoque le commerce mondial, on a peut-être plutôt envie de l'entendre sur le problème de l'Ukraine. Hein.
Oui, on aurait bien aimé l'entendre sur la mer d'Azov et tout ce qui s'est passé. Effectivement, il est 25 marins retenus par la Russie. Bon, Vladimir Poutine s'exprime sur ce qu'il veut, hein, un peu comme Donald Trump, avec une autre, un autre style. Mais ce qui est sûr, alors CNN l'a vraiment très très bien résumé en disant ce sommet, ça va être de la diplomatie sous stéroïdes. Vous allez voir des affrontements, parfois en trio, parfois en duo, entre des hommes forts. Alors, il y a aussi Xi Jinping qui participe à ce sommet. Et là aussi, on peut parler de guerre commerciale aussi avec les États-Unis. MBS, Mohamed Ben Salman, qui est quand même honni en ce moment dans un certain nombre de pays, qui a fait une grande tournée pour essayer de redorer son blason et qui a été accueilli notamment en Tunisie au mot de dégage l'assassin, là qui se présente à ce sommet. Ça va être très compliqué, mais du coup, ça va être intéressant.
Comment expliquer ce climat détestable, Virginie Pradel? Après tout, le rêve de multilatéralisme s'éloigne. Il y a eu la crise mondiale, j'imagine, de 2008, et puis cette guerre commerciale qui fait rage aujourd'hui.
Oui, moi je trouve qu'on assène énormément de contre-vérités hein, quand vous regardez dans l'histoire. Le protectionnisme a toujours été la règle et le libre-échange l'exception. Hein. Rappelons quand même que le protectionnisme fiscal a été utilisé par tous les présidents américains, Carter, Reagan, Obama en 2009, qui a augmenté les droits de douane de 35% pour les pneus chinois, hein, c'était il n'y a pas très longtemps. Et l'Europe, rappelons-le aussi, en 2013, qui a augmenté de 45% les droits de douane sur les panneaux photovoltaïques. Donc je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on reproche à Trump d'être protectionniste, alors que les présidents américains l'ont toujours été sans exception et que l'Europe elle-même a été protectionniste. On a toujours une bonne raison d'être protectionniste et de reprocher aux autres.
Pour vous, ce n'est pas nouveau, et les vœux pieux qui ont été émis il y a 20 ans, c'était juste pour la galerie, alors c'était pour nous.
C'est des déclarations, mais quand vous regardez dans la pratique, vraiment, les États ont toujours été protectionnistes hein, depuis l'Antiquité, et ça ne s'est jamais arrêté. C'est rappelé vraiment brillamment par un historien qui s'appelle Paul Béroche et que j'invite tout le monde. J'invite tout le monde à lire son ouvrage hein, parce qu'il rappelle vraiment brillamment que le protectionnisme a toujours existé.
Alors, Erwan Benezé, vous partagez ce point de vue? Il y a quand même un climat détestable, quelque chose qui s'est tendu sur la scène internationale.
En fait, je suis pas certain que ça soit plus tendu qu'avant, mais on est rentré dans une ère de la parole libérée. Et aujourd'hui, y compris dans ces sommets où tout était un petit peu aseptisé auparavant, on a des règlements de compte qui se font publiquement. On lave son linge sale non plus en famille, mais
de manière très ouverte,
voilà, sur le devant de la scène. Et donc, ça nous apparaît plus violent. Et vous disiez effectivement qu'il n'y a finalement pas moins de protectionnisme qu'auparavant. Sauf aujourd'hui, l'information circule tellement que ils s'invectivent quasiment. Quand on voit les tweets de Trump à l'encontre d'Emmanuel Macron à peine après l'avoir quitté, on sent que aujourd'hui c'est la parole libérée.
Justement, à ce sujet, Hervé Nathan, cette diplomatie Twitter, est-ce qu'elle change le cours des événements ou ce n'est juste que de la mousse, si je puis dire?
Non, c'est l'expression moderne de la diplomatie, c'est peut-être ça simplement. Juste, je voudrais revenir. Le G20 a rempli quand même une mission dans les quelques années de juste après 2008.
Faut quand même au moins. Il faut rappeler qu'il date de 99, hein, le G20.
Oui. Quand il est réuni vraiment et qu'il prend du poids, il évite de rajouter de la crise à la crise, alors qu'on est devant on est quand même devant une crise qui est plus profonde en fait que la crise de 1929 et d'une d'une certaine manière.
Vous voulez dire, ça a été un pare-feu pour la crise de 2008.
Ça a été un pare-feu relativement efficace, avec des gens tout à fait inattendus. On n'attendait pas Nicolas Sarkozy dans ce rôle-là. Bon, pour dire les choses. Mais en fait, ceux qui ont été très efficaces à l'époque, ce sont les Américains, c'est Obama, c'est Gordon Brown, le Britannique, ceux qui ont été les vrais moteurs de la relance en disant, on va dépenser beaucoup, on va faire du déficit public de façon massive. Les Américains ont assumé des déficits publics de moins 10% du PIB, les Anglais aussi, etc. Il y a que la France et l'Allemagne qui ont décidé qu'eux, ils pouvaient faire autrement et que les règles, c'était plus important que le bonheur de leur peuple. Mais ça, c'est une autre histoire, on reviendra. Et puis, effectivement, maintenant, il se trouve que c'est devenu, d'abord, s'il n'y avait pas autant de tensions, on parlerait plus des G20. C'est des choses, on n'en parlait plus depuis quelques années. Ça s'était endormi, il faut bien le dire. Maintenant, la différence avec ce qui se passait précédemment, c'est que nous avons une des vraies guerres pour la suprématie. C'est pas du tout. On parle de protectionnisme contre multilatéralisme. C'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que les Américains veulent défendre leur suprématie, qu'ils se sentent attaqués par les Chinois et qu'ils ont utilisé leur l'arme économique pour faire la guerre à l'Iran en revenant sur l'accord. Allez, c'est à peu près ça.
On marque une pause météo, rappel de l'info, et on revient pour la deuxième partie des informés de France Info.
Ici, en Amérique du Nord, nos vignobles français doivent séduire une clientèle experte. D'où le recrutement de Kim, notre petit prodige, œnologue de formation en mission VIE pour un an.
En effet, je m'occupe de l'animation du réseau de distributeurs. I love meeting people all over the states. J'adore rencontrer des gens à travers tout le pays. It's awesome.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle ? Business France offre une solution RH de mobilité internationale gagnant-gagnant pour les jeunes talents et les entreprises. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
France Info Météo, avec l'appli CIC. Agrégez l'ensemble de ses comptes pour avoir une vision globale de son budget. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo
France.
Un
week-end pluvieux, une nouvelle perturbation va traverser le pays demain. On la retrouvera le matin du nord-ouest au Pas-de-Calais avec de bonnes pluies, plus soutenues du sud de la Bretagne au pays nantais. Ça soufflera bien. L'après-midi, les pluies et le vent gagneront aussi le nord de l'Aquitaine et du Massif central, la région parisienne, la Bourgogne et les Ardennes, des Landes et du Pays basque vers les Cévennes, la vallée du Rhône et l'Alsace. Peu de place pour les éclaircies. En revanche, le soleil aura largement l'avantage autour de la Méditerranée, sur les Alpes, sur le Jura aussi. Les températures baisseront un peu mais resteront agréables, 3 à 9 degrés le matin, 8 à 15 l'après-midi, jusqu'à 18 degrés en Corse. Dimanche, peu de changements, encore de la pluie, cette fois seules les régions méditerranéennes et les Pyrénées devraient rester au sec. Les températures seront à nouveau en hausse, une moyenne de 14 degrés au nord et de 15 au sud.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Vous écoutez France Info, il est 20h30, toute l'info avec vous. Bonsoir Jade Péchira.
Bonsoir. L'un des porte-parole des Gilets jaunes reçus par Édouard Philippe aujourd'hui assure avoir reçu des pressions venant d'autres Gilets jaunes. Seuls deux d'entre eux se sont finalement présentés à Matignon cet après-midi. Jason Herbert, qui a coupé court à la discussion avec le Premier ministre après une vingtaine de minutes. Il souhaitait que l'entretien soit filmé et diffusé en direct, ce que le chef du gouvernement a refusé. Un autre Gilet jaune dont on ignore l'identité a pu discuter avec Édouard Philippe. Le Premier ministre a pris la parole quelques minutes après.
Nous avons pu, avec le ministre d'État, dialoguer pendant plus d'une heure avec l'un de ses représentants. Ce débat a été intéressant, il a été franc, il a été respectueux, il a été utile puisqu'il a nourri notre réflexion et qu'il va être précieux dans l'élaboration des mesures que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce débat et cette réflexion vont se poursuivre. Je tiens à dire que la porte de Matignon restera toujours ouverte. Si les Gilets jaunes souhaitent désigner des représentants, nous pourrons continuer ce dialogue. J'espère qu'il pourra continuer à se tenir. Et je voulais remercier tous ceux qui, quelle que soit leur responsabilité, depuis hier matin, ont souhaité participer à la définition des mesures, de la méthode que nous allons mettre en œuvre à partir de la semaine prochaine.
Et demain, une troisième grande journée de mobilisation des Gilets jaunes est prévue à l'appel de plusieurs porte-paroles du mouvement. Les Champs-Élysées seront filtrées pour éviter les débordements du week-end dernier. Accès limité pour les piétons avec contrôle d'identité et fouille des sacs. Toute personne contrôlée en possession de ce qui peut s'apparenter à une arme fera l'objet d'une interpellation, prévient la préfecture de police de Paris. La rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'aura finalement pas lieu ce week-end en marge du G20 en Argentine. Une heure plus tôt, le président américain avait pourtant indiqué que entretien aurait bien lieu sur fond de tensions entre l'Ukraine et Moscou après l'incident en mer d'Azov dimanche dernier au large de la Crimée. Une dizaine d'ONG internationales interpellent Emmanuel Macron et ses homologues étrangers dans une tribune publiée sur franceinfo.fr. Aide, Sida Action ou encore Médecins du Monde demandent au chef d'État des moyens pour débarrasser le monde du sida, de la tuberculose et du paludisme. Il est temps d'entrer dans l'histoire en mettant fin à ces trois pandémies, écrivent-elles à la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida. Jawad Ben Daoud, le logeur de Daesh, incontrôlable à son procès en appel aujourd'hui. L'audience a dû être suspendue brièvement au tribunal correctionnel de Paris. Jawad Ben Daoud qui a explosé de colère et a dû être sorti par les gendarmes. Il répondait aux questions de l'avocate générale. Le début ce soir de la 15e journée de Ligue 1, plus que 15 minutes avant le coup d'envoi du match Saint-Étienne-Nantes. Les Verts qui sont 6e avec 23 points, les Nantais eux pointent à la 10e place du classement. 20h33, la suite des informés de France Info tout de suite avec Jean-François Aquili.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec nos invités Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International, Virginie Pradel, fiscaliste à l'Institut Vauban, avec Hervé Nathan, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, avec Erwan Benezé, journaliste au Parisien, aujourd'hui en France en charge de l'énergie et de l'automobile, auteur de Nucléaire, une catastrophe française chez Fayard. Alors, les Champs-Élysées retiennent leur souffle. Les restaurateurs, les commerçants, les riverains ne veulent pas revivre les violences, les dégradations, les pillages de la semaine dernière. Les gilets jaunes qui voulaient manifester paisiblement et les forces de l'ordre non plus. Le dispositif sera digne d'une fan zone, nous explique le commissaire Maigret, Jean-Paul Maigret, secrétaire national du syndicat indépendant des commissaires de police, invité de France Info ce matin.
On veut éviter que ces problèmes, que ces incidents, que ces affrontements aient lieu sur les Champs-Élysées. On va essayer de faire ce qu'on avait fait ailleurs, par exemple Place de la Concorde, par exemple rue du Faubourg Saint-Honoré où il y a le Palais de l'Élysée ou près de l'Assemblée nationale, c'est faire des points de contact pour que on disperse les points d'affrontement, s'il doit y en avoir, et surtout qu'on garantisse à ceux qui manifestent, ceux qui sont pacifistes, que ça se passera correctement sur ce qu'on appelle quand même la plus belle avenue du monde et que certains avaient entrepris de dépaver. Et donc derrière, on va faire un système de bunkerisation, entre guillemets, j'aime pas l'expression, des Champs-Élysées, un peu comme le 14 juillet.
Erwan Benezé, une fan zone, une bunkerisation nécessaire pour protéger la plus belle avenue du monde.
Qu'est-ce qui s'exprime ici et pourquoi le gouvernement aujourd'hui a tant de mal à avoir une emprise ou à saisir ce mouvement. Pour moi, c'est un mouvement un peu historique. Vous savez, en géopolitique, en géostratégie, depuis la chute du mur de Berlin, on parle dans le monde de conflits asymétriques entre des grandes puissances. Alors, c'est plus des blocs qui s'opposent, c'est des grandes puissances face à des groupuscules qui sont plus difficiles à attraper. Ici, j'ai le sentiment que le gouvernement est face pour la première fois à un conflit asymétrique au sein même de son territoire avec sans réel prix, c'est-à-dire sans que ce mouvement soit né soit de partis politiques ou soit de syndicats.
Vous voulez dire que sa forme est inédite?
Elle est protéiforme et donc c'est un petit peu comme quand vous essayez de saisir un poisson, c'est plus facile de saisir un gros poisson qu'un banc, et là il n'arrive pas à avoir de prise, et c'est la raison aussi pour laquelle je pense les gilets jaunes ont autant de mal à avoir des porte-paroles. Parce que c'est aussi ce qui donnerait plus de prise au gouvernement pour essayer de contrôler un petit peu ce mouvement.
Virginie Pradel, je ne sais pas si vous partagez le point de vue d'Hervé Nathan. Vous évoquiez tout à l'heure votre présence dans les dernières manifestations.
Oui, parce que j'habite juste à côté.
Et riveraine.
Oui, je suis une riveraine et comme je suis fiscaliste et assez intéressée par les révoltes fiscales, j'étais très intéressée. Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes, donc c'est vrai que j'ai été assez choquée par les amalgames qui ont été faits, parce que la majorité des, du moins sur les Champs-Élysées, la majorité des personnes que j'ai vues étaient dans un excellent état d'esprit. Il y avait des casseurs.
C'est important de le rappeler.
Il faut le rappeler, bon, bien sûr, il y avait des casseurs, parce que après, quand à la fin de la journée, les Champs-Élysées et les alentours se sont malheureusement transformés en zone de non-droit. Enfin, tout ça, voilà, tout ça pour indiquer que j'espère que le dispositif sera un peu mieux ficelé, parce que la semaine dernière, rappelons que le gouvernement était quand même très sûr de lui.
Hervé Nathan, il faut rappeler que ces violences, cette casse des Champs-Élysées n'ont pas discrédité le mouvement, puisque les enquêtes qui ont suivi ont montré un très fort soutien national aux Gilets jaunes.
Alors merci. On verra ce qui... L'avenir du mouvement se joue peut-être demain et après-demain, parce que on est à la troisième semaine. Les Champs-Élysées, ça risque d'être assez différent, parce que beaucoup de gens ne veulent plus venir monter de province, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé samedi dernier. Et l'idée pour des gens qui viennent de loin de se retrouver devant le juge, parce qu'on se retrouve dans une manifestation par hasard, et on se retrouve ensuite en contrôle d'identité, voire devant le tribunal, ou mêlée à des casseurs, tout ça, c'est pas engageant. Mais ce qui est intéressant dans le mouvement, ce qui va continuer, ce qui fait que ce mouvement est absolument étonnant, peut-être pas unique dans l'histoire de France, mais en tout cas étonnant, c'est que on s'est remis à parler politique, et c'est ça qui gêne beaucoup, à mon avis, à la fois le gouvernement, c'est-à-dire il faut se rendre compte de quelque chose. On n'a jamais, depuis très longtemps, parlé autant de politique en France. Les gens, ils sont mis à parler de politique, parler des pouvoirs d'achat, ils se sont mis à parler de leurs conditions de vie, de leurs conditions de travail, de leurs conditions de transport, de leurs conditions d'habitat. Ça, c'est de la politique. Voilà. Tout d'un coup, la politique est arrivée. Voilà. Et on a arrêté de parler de La République en marche, de combien ils avaient de députés, de la France insoumise.
On parle plus de la mécanique, on parle du vrai fond.
Des bisbilles qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de la République en marche, à l'intérieur des Républicains, on a oublié qui était Monsieur Wauquiez, et puis, etc., etc. Et tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y avait une population qui n'allait plus voter et qui s'est mis à parler politique. Et ça, c'est très, très, très intéressant.
C'est très bien vu, Hervé, voilà. Qui nourrit effectivement le débat public. Virginie Le Petit, vu de l'étranger, qu'est-ce que ça donne finalement ?
C'est plutôt admiratif. Alors, il y a trois zones sur lesquelles on est allé voir. La Belgique, où un mouvement similaire est en train de naître, et notamment, alors il y a eu des manifestations à Bruxelles, mais c'est plutôt vers Charleroi, à Feluy, dans une zone qui était une zone industrielle, qui l'est moins, et qui est assez pauvre, où on assiste à des mouvements similaires. Die Welt, en Allemagne, souligne que la gauche allemande et l'AfD, l'extrême droite allemande, disent que ça serait bien qu'on manifeste de cette façon en Allemagne pour montrer sa colère. Et le plus intéressant, à mon avis, c'est un citrus qui l'apporte, donc qui dit qu'est-ce que c'est la démocratie ? La démocratie, c'est une bande de frics en gilets jaunes un peu éméchés, hors de contrôle, qui empêche un bus de rejoindre sa destination. Et un jour, nous aussi, nous l'aurons, cette démocratie. Moi, je trouve ça fantastique. Et donc,
pourquoi dites-vous que c'est fantastique ?
Parce que Gazeta est un site qui est parfois iconoclaste, et je trouve que nous qui trouvons qu'il y a des zones de non-droit, etc., de voir que depuis la Russie, on estime que ça, c'est de la démocratie, je trouve ça très intéressant.
Erwan Beneze, encore un mot sur ce mouvement étonnant nous surprend depuis plusieurs semaines maintenant.
Vu de l'étranger, il y a quand même une petite crainte, à mon avis, chez nos voisins, que le mouvement prenne de l'ampleur. On parlait de la Belgique. C'est vrai que le temps a fait que son édito sur
cette fronde. Un effet papillon, c'est ça, sur l'étranger.
Exactement. Oui. Et puisqu'il y a eu des manifestations aujourd'hui qui ont elles aussi été réprimées à coups de canon à eau à Bruxelles, je crois 300 manifestants. Et je pense que, alors en plus, au départ, la révolte est partie des prix du carburant, mais aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Ce qui fait qu'il n'y a plus de spécificité française. Ça peut être une révolte qui devient générale sur le pouvoir d'achat, sur la qualité de vie, et donc qui pourrait être emparé par d'autres citoyens, dans nos pays voisins.
Voilà. Allez, 20h40 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Y a-t-il eu des produits laitiers issus de la tour numéro 2 de l'usine Lactalis de Cran en Mayenne contaminés à la salmonelle ? Non, ont répondu aujourd'hui la Direction Générale de la Santé, le géant du lait. Lactalis a été mise en cause fin 2017 dans la contamination de lait infantile issu de la tour numéro 1 de son usine mayennaise. Un seul gilet jaune s'est finalement entretenu aujourd'hui à Matignon avec le Premier ministre à la veille d'un nouvel appel à manifester demain à Paris. À la suite de pressions subies par l'intéressé, son identité n'a pas été révélée. Un autre gilet, le syndicaliste CFDT Jason Herbert, a lui quitté la Réunion après qu'Edouard Philippe a refusé que les discussions soient filmées. Les autorités américaines lèvent leur alerte au tsunami en Alaska, dont le sud a été frappé aujourd'hui par un tremblement de terre de magnitude 7. À Anchorage, la capitale, des bâtiments ont tremblé sans faire a priori de victimes. La 15e journée de Ligue 1 de football démarre ce soir avec Saint-Étienne-Nantes. Le coup d'envoi, c'est dans 5 minutes maintenant. Les Stéphanois, 6e au classement, vont devoir tenter de faire oublier leur élimination de la Coupe de la Ligue dès le premier tour. Mardi dernier, c'était face à Nîmes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
On a refait de la politique depuis quelques jours, nous a dit à juste titre Hervé Nathan. C'est très judicieux. On a aussi refait de la fiscalité, de la comptabilité, des comptes publics. Et il y aurait peut-être même une certaine forme d'incompréhension face aux réformes en cours. Comment en sortir? Eh bien, la piste du moratoire que vous avez évoquée tout à l'heure autour de cette table, avancée pour la première fois par la présidente de La République En Marche de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, Brigitte Bourguignon, est en train de faire son chemin, mais jusqu'où? Écoutez Isabelle Florenne, elle est députée Modem des Hauts-de-Seine, elle était l'invitée de France Info ce matin.
Il y a un problème d'écoute, oui sûrement, parce que je pense que on peut pas dire que le discours de mardi d'Emmanuel Macron ait été malheureusement très audible. Parce que moi, je pense que dans le discours de mardi, il manquait un mot. Il manquait le mot moratoire. Moratoire de 3 mois, vous le disiez, madame, ma collègue Brigitte Bourguignon faisait cette proposition. Moi, je pense que quand on veut dialoguer, alors encore faut-il qu'on ait des interlocuteurs. Ça, c'est un premier sujet du côté des colères, de la colère des Gilets jaunes. Mais de l'autre côté, je pense qu'aussi, temporiser sur 3 mois, c'est pas reculer.
Virginie Pradel, moratoire alors, c'est reculer pour mieux sauter ou quoi? On n'arrive pas à comprendre.
Oui, non, alors, ce qu'il faut quand même rappeler, moi je comprends la colère des Gilets jaunes et je pense qu'il y a des marges de manœuvre parce que le PLF n'a pas encore été adopté. Et rappelons que dans
le PLF, c'est-à-dire
le projet de loi de finances pour 2019, voilà. Je suis désolée. Rappelons quand même que dans ce projet de loi de finances, il y a des mesures très généreuses pour une certaine catégorie de contribuables. Hein. Je pense notamment à la quasi-suppression de l'exit tax, à certaines mesures de faveur qui ont été votées en faveur des traders et investisseurs, dont le coût n'a pas été précisé, hein, parce que forcément, comme ça passe par voie d'amendement, ben on n'a pas besoin de comptabiliser. Donc je pense qu'il y a quand même encore des marges de manœuvre et je pense que la priorité là, c'est quand même de soulager tout un pan de contribuables qui sont vraiment plongés dans la précarité. Enfin, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on entend quand même des gens qui nous expliquent qu'ils n'osent plus allumer le chauffage chez eux, qui se demandent s'ils vont continuer à prendre leur véhicule pour aller travailler. C'est dramatique.
Ouais. Hervé Nathan, moratoire souvent dans l'histoire récente politique a permis le moratoire non pas de repousser mais d'enterrer discrètement quand même, non?
Oui, c'est
on repousse,
ce qui...
oui,
on repousse, on oublie. Mais ce qui manque aussi, parce que la question climatique, elle existe. C'est-à-dire, on peut pas. Il manque à la fois, d'abord, ce gouvernement, il manque à la fois de contact avec la population, la vraie, on va dire. On a envie de le dire comme ça, tout simplement, celle qui effectivement n'y arrive plus. Donc, on a l'impression qu'ils ont découvert cette partie de la France. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Et l'autre chose, c'est qu'ils, ce sont des mesures technocratiques sur les questions climatiques qui oublient ou qui contournent un fait massif, c'est que pour remplir les conditions pour réduire l'empreinte de la France sur le climat, il faut un plan massif d'investissement public. Et c'est ça qui bloque. Il faudrait, effectivement, on parle toujours des passoires, les 7 millions de logements qui sont des passoires thermiques, ben voilà, il faudrait mettre beaucoup d'argent. Il faudrait subventionner la suppression de ces passoires thermiques. Ça coûte plusieurs milliards, voire plusieurs dizaines de milliards d'euros. Mais ça, c'est un vrai plan. C'est-à-dire, ça ressemble à un véritable effort national pour assumer les responsabilités de la France vis-à-vis du climat. De la même façon, c'est pas la peine de dire au fond... Parce que jusqu'à présent, le gouvernement, il fonctionne en disant il y a le marché et j'oriente le marché avec des taxes. Grosso modo, c'est ça le fonctionnement. On met des taxes et grosso modo, l'homo economicus, qui est le consommateur basique, il va acheter automatiquement une voiture qui consomme moins, voire une voiture électrique, parce qu'évidemment, il va se rendre compte que son intérêt sur 5 ans, 10 ans, c'est d'avoir une voiture électrique plutôt qu'une voiture diesel, parce qu'on l'a orienté avec des taxes. Mais ça ne marche pas comme ça. La vraie vie, c'est pas comme ça. En revanche, il faut calfeutrer tous les logements qui méritent d'être calfeutrés. Il faut pas attendre trois ans pour le faire tout de suite.
C'est du tout de suite.
Et massivement.
Erwan Benezé, dans le discours du président, la fameuse...
programmation pluriannuelle de l'énergie.
Voilà. Il y avait tout de même une très forte, essentiellement, dimension, si je peux dire, climatique, enfin du moins transformation écologique. Est-ce qu'on était un peu sur le fil de l'eau? Très concrètement.
Déjà, est-ce que le gouvernement anticipe un autre problème qui risque de lui arriver en pleine figure, c'est que, et on parlait du moratoire, le problème c'est que si on commence à lancer un moratoire sur les prix du carburant, on va demander, enfin en tout cas les Gilets jaunes risquent de demander un moratoire sur d'autres augmentations de prix, et je pense notamment à ceux de l'électricité qui vont arriver très bientôt, dès le 1er février. La Commission de Régulation de l'Énergie donnera, en fonction des coûts de production, donnera selon selon elle, ce que doit être la hausse. Donc ça pourrait être 3, 4, 5 %. Il y a d'autres hausses qui viennent en millefeuille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais liées à l'électricité nucléaire que revend EDF à ses concurrents, etc. Les certificats d'économie d'énergie. Bref, on a un millefeuille, vous en parleriez peut-être encore mieux que moi, de taxes, oui. Qui fait qu'on peut redouter entre 5, 6, 7, 8, 9, 10 % de hausse sur l'année 2019. Et donc, ça va être un peu le deuxième effet qui se coule.
Il y aurait une sorte de, oui, d'effet double, double lame, si je puis dire.
Ouais, oui.
Juste un mot, Erwan Benezé, vous qui avez publié cet ouvrage, Nucléaire, une catastrophe française, le fait de repousser de 2025 à 2035 la réduction à 50 % de la part de l'atome dans l'électricité, c'était, on le savait déjà quelque part, mais pour vous, c'est une bonne, une mauvaise nouvelle ?
La mauvaise nouvelle, à mon avis, c'est que ces 14 réacteurs que la PPE prévoit de fermer ne reposent sur finalement pas suffisamment de choses. Dans ce quinquennat et peut-être même le quinquennat suivant, il n'y aura pas de fermeture de réacteurs outre les deux réacteurs de Fessenheim, puisque la fermeture des réacteurs sera en partie conditionnée. Ce qui veut dire que on repousse là encore au calendrier grec une fermeture des réacteurs, ce qui a déjà fait le quinquennat précédent. Le problème, c'est qu'en plus, pour la toute première fois dans cette PPE, on a parlé de nouveau nucléaire. Ça, c'est un langage, c'est un peu des éléments de langage, comme on dit chez nous, qui appartiennent à EDF. Et là, on parle de nouveau nucléaire. Donc, il y a quelque chose qui est incompréhensible, qui est que d'un côté, on dit qu'on va fermer des réacteurs, de l'autre côté, on dit qu'on va prolonger ces mêmes réacteurs, ou en tout cas les mêmes, ceux qui ont été construits sur le même modèle et à peu près dans le même temps. Et dans un troisième temps, on dit qu'on va construire de nouveaux réacteurs. Et il y a une incompréhension. Et je terminerai par ça, sachant que le nucléaire va coûter extrêmement cher. François Derugy nous l'a encore dit hier dans les pages du Parisien, et que ça va peser à la fois sur les citoyens, puisque c'est une entreprise publique, et sur
les
consommateurs.
Oui. Virginie Le Petit, encore un mot, les réformes à venir, à savoir l'assurance chômage, les retraites, au fond, ce mouvement des gilets jaunes a de quoi inquiéter le gouvernement finalement, parce qu'il y a quand même un calendrier assez chargé qui est devant.
Oui, il a un calendrier assez chargé et effectivement, c'est toute la question du moratoire se repose parce que s'il recule maintenant, est-ce qu'il sera en mesure derrière de mener des réformes qui vont s'avérer extrêmement difficiles? Donc la question se pose effectivement et là ça occupe tout l'espace. On a l'impression que bon, au moins c'est quelque chose qui touche tous les Français contrairement à l'affaire Benalla. Donc là c'est pas un parasitage, mais ça occupe énormément d'espace et ça va effectivement peser sur les réformes à venir.
Oui, Virginie Pradel, à ce sujet, il faudra faire preuve de pédagogie plus que jamais finalement.
Oui, mais de toute manière, comme cela a été dit auparavant, on peut pas gouverner contre le peuple. Donc là, s'il ne fait pas un geste, et c'est pas un geste qui est incroyable, c'est 2-3 milliards pour 2019 de faire un moratoire. On peut pas, Emmanuel Macron ne peut pas faire des réformes si les Français sont plongés dans la précarité parce qu'ils ne peuvent plus chauffer ni circuler. Donc, à mon avis, c'est un geste nécessaire qui serait lucide et qui permettrait d'aller de l'avant. Ce serait pas forcément une reculade sur tous les pans.
Allez, 20h50 sur France Info. Le dernier rappel de l'info avec vous, Thomas Bénèche.
Paris sous très haute surveillance, demain dès 6h du matin, place de la Concorde, à bord de l'Elysée, de Matignon, du ministère de l'Intérieur et de l'Assemblée nationale seront interdits à la circulation. Tout rassemblement sera également prohibé dans ces secteurs. C'est le dispositif annoncé aujourd'hui par la préfecture de police de Paris à la veille de l'acte 3 de la mobilisation des gilets jaunes dans la capitale. À Bruxelles, quelques centaines de gilets jaunes ont défilé aujourd'hui contre les prix du carburant et les hausses de taxes en Belgique. Le mouvement a démarré dans le calme en fin de matinée avant de dégénérer en début d'après-midi. Midi. Un véhicule de police a été retourné par des manifestants. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Le géant mondial de l'hôtellerie Marriott dit regretter cet incident. Il annonce aujourd'hui le piratage d'une de ses bases de données pouvant contenir les informations d'environ 500 millions de clients. Après enquête, le groupe révèle que les accès non autorisés à cette base ont débuté en 2014. Plusieurs données liées à des réservations ont pu être dupliquées. L'équipe de France masculine de basket disputera les championnats du monde 2019 en Chine. Elle s'est qualifiée ce soir pour la compétition en battant la République tchèque 79-65.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Ce sont des fléaux dont il ne faudrait jamais cesser de parler. 10 associations parmi lesquelles Aide, SIDAction, Médecins du Monde et d'autres publient une tribune sur France Info et sur le Huffington Post à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA. C'est demain. Tribune pour interpeller Emmanuel Macron mais aussi tous les chefs de l'État, leur demander de se mobiliser plus en avant contre le VIH mais aussi contre la tuberculose et le paludisme. Il faut plus de moyens, nous dit Philippe de Botton, président de Médecins du Monde, l'un des signataires de la tribune qui était joint sur France Info ce matin.
C'est vraiment l'accès aux soins, l'accès contre les discriminations, c'est d'aller vers les personnes touchées. Donc le dépistage est évidemment essentiel. Je ne pense pas que l'argent soit mal utilisé. Je pense que le Fonds mondial a fait depuis 2002 un travail absolument remarquable. Ça a permis, comme c'est noté dans la tribune, d'améliorer énormément l'accès au traitement VIH. Non, par contre, il faut augmenter ses moyens pour espérer ensuite avoir une éradication de ces pandémies à l'horizon 2030. Donc ça demande un investissement supplémentaire d'au moins 20 à 30%, bien évidemment.
Virginie Lepetit, pour quelques dollars de plus, on pourrait se débarrasser de ces trois fléaux?
Se débarrasser de ces trois fléaux, je suis pas sûre. En tout cas, les limiter beaucoup plus. Dans les,
il y a
dans
une date
les...
qui est fixée, que c'est 2030.
Oui, hein. 2030. Et dans les objectifs de l'ONU pour 2030, c'est 90% de réduction du nombre de personnes porteuses du VIH d'ici à 2030. Le problème, c'est que ça nécessite des actions, ça nécessite de la volonté de la part des gouvernements et une reconnaissance des problèmes. Alors, moi, je parler plutôt du sida, il y a quand même des pays dans lesquels il y a des contaminations à une vitesse énorme. Enfin, l'Afrique du Sud, il y a quand même 19% de la population adulte qui est contaminée. La Russie, il y a une contamination, chaque heure 10 personnes contaminées supplémentaires. Il y a des pays dans lesquels les gens sont toujours ostracisés, donc aller soigner des gens qui sont rejetés partout, ça n'est pas encore possible. Donc il y a quand même encore énormément de choses à faire. Quant au palud, ben, de toute façon, jusqu'à une date relativement récente, c'était quand même une maladie qui intéressait peu les grands groupes pharmaceutiques parce que ça n'était pas une maladie qui pouvait rapporter énormément puisqu'elle concernait des pays extrêmement pauvres.
Erwan Benezet, vous avez la sensation qu'on a relâché la pression sur notamment les campagnes de prévention?
Ouais, tout à fait. Vous parliez de quelques dollars de plus. Effectivement, il faut de l'argent pour la recherche.
C'est une expression. Il faut beaucoup d'argent, mais
il faut de l'argent.
Mais c'est la santé.
Et il faut de la mémoire. Ouais. Souvenez-vous le film 120 battements par minute, très très beau film qui reparlait un petit peu du combat de ACT UP pour qu'il y ait une reconnaissance des malades du SIDA. Quand le film est sorti, on a eu l'impression que les gens reprenaient un petit peu conscience de ce que ça représentait. C'était comme s'ils s'étaient habitués à cette maladie. Donc il y a l'argent pour la recherche et la mémoire, ne pas oublier parce que le danger, ouais. C'est ça, le danger réside dans l'oubli.
Virginie Pradel, 0,0025% de la richesse mondiale suffirait à mettre fin au sida, au paludisme, à la tuberculose. C'est ce que dit la pétition qui est en ligne sur change.org. C'est aussi et éminemment une affaire de moyens financiers.
Ah oui, bien évidemment. Ben, j'espère qu'ils vont arriver à lever des fonds supplémentaires et aussi que des initiatives propres à chaque État vont être menées. Hein. J'ai entendu il y a quelques jours l'annonce du remboursement des préservatifs. Ben, c'est aussi une initiative nationale qui peut permettre d'enrayer le fléau.
Et Hervé Nathan, l'Afrique est particulièrement touchée. Hein, c'est là où vivent les populations les plus pauvres, les plus vulnérables, les plus discriminées. Aucun continent n'est épargné. Le sida, est-ce qu'on a relâché l'attention? Est-ce que c'est une sensation? Mais quelque part, les campagnes de prévention ont tendance à disparaître.
Il y a deux niveaux d'analyse. Le premier, c'est que dans les pays occidentaux, riches, qui ont eu les moyens de protéger à peu près, de fournir les médicaments, de fournir les trithérapies, etc. aux malades et aux personnes séropositives. D'une certaine manière, c'est un petit peu endormi parce qu'on a eu l'impression que ça devenait une maladie chronique. Et d'une certaine manière, il y a des gens qui disent que ça devient non plus un fléau, le fléau que c'était dans les années, quand c'est apparu dans les années 80, on a l'impression qu'il n'y avait aucune solution thérapeutique. Et maintenant, on a l'impression que les gens dans les pays développés peuvent, et avec des systèmes de soins et de remboursement suffisants, arrive à vivre avec, ou quelquefois survivre avec. Donc ça donne l'idée que ça rejoint les maladies chroniques, il y en a d'autres, les hépatites, etc., qui peuvent être très invalides, très handicapantes, etc. Dans les pays qui ne bénéficient pas de ce genre de... Oui. de dispositifs, la situation était effectivement catastrophique. Elle est d'autant plus catastrophique, à mon avis, que c'est des pays dans lesquels les relations entre femmes et hommes sont extrêmement dégradées. Ce qui est le cas, par exemple, de l'Afrique du Sud, où les relations entre les hommes et les femmes sont quelquefois extrêmement violentes. Et donc, ça met les pays en incapacité et les populations en incapacité de se défendre contre ce genre de maladie.
Alors, il faut rappeler cette statistique qui est également donnée. Il faut aller sur le site de franceinfo.fr et du Huffington Post pour tordre le cou au cliché. Le sida reste la première cause de mortalité pour les femmes de 15 à 49 ans dans le monde. Ça méritait d'être précisé. Avant de nous séparer, Virginie Le Petit, allez, c'est la tradition. Qu'y a-t-il demain à la une de Courrier International.
Alors, on consacre notre une au business du cannabis, en prenant notamment exemple du
business
Canada.
Business du cannabis.
Et puis on a aussi un hors-série qui est sorti cette semaine, les meilleurs articles de l'année à lire ou à relire.
Un best-of 2018, Hervé Nathan, à la une de Marianne.
Eh bien, l'impasse Macron, en jaune.
Original, en jaune, effectivement, en jaune. Avec des lettres jaunes. Je rappelle votre ouvrage, Erwan Benezé, Nucléaire, une catastrophe française, paru chez Fayard. Je vous conseille sa lecture ce week-end, un moment de détente, pas sûr, en tous les cas, c'est extrêmement passionnant. Merci à vous d'être venu. Merci à vous également, Virginie Pradel. Je rappelle, vous êtes fiscaliste et riveraine. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à lundi. Les informés ce week-end seront assurés par mon ami Olivier Delagarde. Bonsoir.